Il est midi, Info Week-end, Isabelle Pelletier.
Une situation sécuritaire encore instable, un couvre-feu élargi du 21 au 24 septembre, la vente d'alcool interdite à compter de lundi et jusqu'au 24. Le haut-commissaire Louis Lefranc était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Les installations des ligues de rugby et de football de Dimbéa incendiées à nouveau dans la nuit. Le président de la ligue de rugby dénonce des attaques contre le vivre ensemble. La brocante de la Spank a attiré ce matin de nombreux amoureux des animaux, l'occasion aussi de faire de bonnes affaires. En métropole, des manifestations soutien à Gisèle Pélicaud, droguée et violée par son mari, ont eu lieu un peu partout dans l'Hexagone. En football, Paris a dominé les Bretons de Brest 3-1 pour rester leader du championnat de France. En Calédonie, c'est de la voile avec l'équipe de Young Guns qui passe en premier la ligne d'arrivée de la 3e régate offshore du Challenge 2024 CNC. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 4 mois jour pour jour après le déclenchement des émeutes, le haut-commissaire Louis Lefranc était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir de le magazine Transparence et il est largement revenu sur la situation du territoire. Michael Juneski.
Louis Lefranc, interrogé d'abord sur l'ordre public, et il constate qu'il reste des situations difficiles à Nouméa dans les quartiers de la vallée du Tiers et de Rivière-Salée où des unités de déblaiement sont toujours sur place, mais aussi à Dimbéa dans les secteurs de Koutchou et d'Apogoti qui restent difficiles avec une adversité récurrente et tenace. Le haut-commissaire note en revanche une amélioration sur la côte Est où la situation, dit-il, est en cours de résolution en liaison avec les maires et où l'on évacue les obstacles.
Il y a pas mal de dépôts comme ça, temporaires, sur les communes de la côte Ouest où il y a de la ferraille, des carcasses de voitures, etc. Et au fur et à mesure, ou plutôt simultanément, on évacue ces zones de dépôts temporaires de carcasses de véhicules vers la zone de Ducos, qui appartient à la province Sud, où il y a déjà des milliers de carcasses de voitures. Et aujourd'hui, on en est à 80 000 mètres cubes de bois, de ferraille. On regroupe tous les débris, toutes les carcasses de véhicules, toute la ferraille, parce qu'il va falloir s'en occuper et voir comment on traite tout cela et pour éviter d'autres problèmes de nature atteinte à l'environnement. Donc tout est regroupé là-bas. Donc c'est une opération en cours. Donc on évacue les barrages sur les communes de la côte Est en liaison avec les maires. Il faut que les maires s'engagent et me le demandent.
L'objectif est de dégager les axes de circulation et les militaires sont à pied d'œuvre, ajoute le haut-commissaire qui déclare que cela prend du temps, mais on y arrive et nécessite beaucoup de moyens qui soient parfaitement coordonnés. Interrogé sur la situation de Saint-Louis, il affirme qu'il ne lâche rien, même si aucun de mes prédécesseurs n'a réglé le problème.
Quand je dis que nous rétablirons l'ordre à Saint-Louis, on rétablira l'ordre à Saint-Louis. Non, mais il faut me croire. Moi, je lâche pas, je lâche pas. Le travail est long parce que l'adversité est très forte. On a pu le mesurer le 14 mai dernier. Un gendarme mobile âgé de 22 ans, M. Molinari, qui a été assassiné, tué d'une balle dans la tête. Un émeutier qui a été tué par un tir de riposte du GIGN le 10 juillet. Pour vous donner quelques éléments, les tirs sur les forces de l'ordre depuis le 13 mai dernier, c'est 313 tirs d'armes très puissantes, c'est des calibres importants, 7,62, 300 Winchester Magnum, voire supérieurs. Sur ces gendarmes, ce sont des carjackings dont était victime la population du Mont d'Or. On en est à 65. 34 ont été commis avec usage ou menace des armes.
Et concernant les verrous de Saint-Louis et la circulation sur la RP1, Louis Lefranc martèle qu'il est dans une logique de sécurité des personnes.
L'effet majeur que moi je recherche, il est simple, c'est rétablir la libre circulation sur la route provinciale. C'est ma priorité, mais je veux le faire en toute sécurité. Moi, je ne veux pas rouvrir cette route et exposer à un danger quelconque des automobilistes du Mont d'Or qui la prennent et qui seraient victimes de carjacking. Donc, on a engagé un travail d'investigation judiciaire qui est sous l'autorité du procureur de la République. C'est un travail minutieux. Il s'agit de repérer des individus qui, dans l'ensemble, sont tous d'anciens repris de justice, qui ont commis des homicides, il faut le dire, et qui sont prêts de nouveau à en commettre d'autres. Donc, on s'occupe de tous ces individus. On le fait avec les moyens d'investigation qui sont ceux de la gendarmerie nationale et avec des équipes d'intervention qui sont celles du GIGN. Ça nécessite beaucoup de moyens.
Et dans ce contexte, le haut-commissaire appelle ces individus violents à la reddition.
Je ne vais pas dévoiler le mode d'action à ceux que les gendarmes appellent naturellement nos adversaires. Mais la détermination, c'est celle-là. Et tous ces individus seront interpellés d'une manière ou d'une autre. Le plus simple pour eux serait qu'ils se rendent.
C'est un appel que vous lancez ou qu'ils auraient lancé?
C'est un appel que je leur lance, que je lance aussi aux autorités coutumières avec lesquelles nous sommes en contact. C'est un appel que je lance à leurs parents. Parce que s'ils ne se rendent pas, là on change de posture. C'est qu'ils ne veulent pas se laisser faire. C'est qu'ils sont prêts à aller au contact. C'est qu'ils sont prêts à un affrontement avec les gendarmes du GIGN. J'ai eu beaucoup de moyens d'observation, beaucoup de moyens humains du GIGN Paris, Satori, qui sont arrivés là. Ils seront tous interpellés.
Le commissaire souligne que l'on réfléchit à sécuriser durablement cette route qui traverse la tribu de Saint-Louis et il affirme que sa priorité et celle des gendarmes, c'est de rouvrir la RP1 et d'interpeller ces individus. Et il prévient qu'il dispose de moyens suffisants avec un total de 7000 hommes.
Je dispose d'un dispositif de forces de l'ordre important, 27 escadrons de gendarmerie mobile, 3 compagnies CRS. J'ai demandé des renforcements qui m'ont été accordés. On va passer à 41 unités de forces mobiles. Ça s'est jamais vu. Même pendant les moments les plus durs des événements des années 84-88. On n'a jamais eu ça. C'est 3400 gendarmes mobiles, c'est 1300 policiers. Et en appui, pour la protection des points sensibles, c'est 2300 militaires. Donc faites des additions, on est à près de 7000 hommes. Ce sont des militaires qui viennent de la Légion étrangère, du régiment étranger de cavalerie, du régiment étranger d'infanterie, du 35e régiment d'infanterie de Belfort. Ça, ce ne sont pas des légionnaires, ce que les légionnaires appellent la régulière. Donc, ils peuvent imaginer toutes les stratégies qu'ils veulent. Mais avec un tel volume de force, je vous le dis, nous ferons face.
Interrogé sur la date du 24 septembre, le haut-commissaire indique qu'il ne la craint pas et il précise les dispositions qui ont été prises pour le long week-end du 20 au 24 septembre.
Bon, d'abord, je ne crains pas le 24 septembre. Vous le dire. Je vous ai donné le volume de force qui est à ma disposition pour traiter non pas seulement la date du 24 septembre, mais ce long week-end qui démarre le 21 septembre, donc samedi 21, dimanche 22, lundi 23, mardi 24, donc c'est 4 jours. C'est totalement intégré. C'est aussi la raison pour laquelle, dans les arrêtés que j'étais amené à prendre, tout d'abord, un bon arrêté, c'est l'arrêté du couvre-feu que les maires partagent. Donc de 22h à 5h du matin, du lundi 16 septembre jusqu'au samedi 21, donc 5h. De 18h à 6h du matin, du samedi 21 au mardi 24, inclus 18h à 6h. C'est un petit peu pour séparer l'ivraie du bon grain. Ceux qui n'ont rien à faire la nuit, les gendarmes ou les policiers leur tombent dessus alors qu'il y a le couvre-feu.
Donc le week-end du 24 septembre, ce sera à 18h.
Voilà, ça c'est pour le couvre-feu. Ensuite, le rassemblement. Le domaine qui est visé, c'est le domaine public. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Mais je n'interdis absolument pas les manifestations d'activités sportives. Elles peuvent être autorisées. Les marchés peuvent être autorisés. Et puis tous les rassemblements qui relèvent d'usages locaux, qui ne sont pas évidemment de nature revendicative.
Et à ce titre, Louis Lefranc précise qu'il a refusé la mise à disposition de la place du Moïca au président du Sénat coutumier. Il ajoute que la consommation et la vente d'alcool seront interdites, ainsi que le transport d'armes et de carburant sur l'ensemble du territoire à partir de ce lundi 16 septembre jusqu'au 24 septembre au soir. Interrogé sur les conséquences économiques de l'insurrection, Louis Lefranc détaille la situation et relève qu'au total, plus de 2200 entreprises sont concernées par les émeutes directement ou indirectement. Dans ces conditions, il déclare que l'État est la seule bouée de sauvetage.
Aujourd'hui, la seule bouée de sauvetage, c'est l'État. Ce n'est pas la peine de regarder ailleurs. Il n'y a que l'État. D'ailleurs, à chaque fois que je me déplace aux réunions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dès qu'on parle d'argent, toutes les têtes se tournent vers le haut-commissaire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, les chômeurs. Le territoire calédonien, ça tournait autour de 2 500, 3 000 chômeurs. On est passé à 7 000. Mais emploi direct détruit du fait des destructions d'entreprises. Il faut rajouter ce qu'on appelle le chômage partiel. C'est 17 000. Donc faites des additions, 7 000 plus 17 000, 24 000. Ben, qui paye l'activité partielle? C'est l'État. Tout simplement parce que personne n'est en mesure de faire face au paiement de ce chômage partiel. Ça représente 20 milliards. Rien que pour la prolongation des mois de septembre et octobre, c'est-à-dire 160 millions d'euros, pour payer ce chômage partiel.
Et à cela s'ajoutent les emplois perdus dans le secteur métallurgique. Il n'y a pas d'autre solution que l'État vienne à la rescousse, répète le haut-commissaire qui indique que l'État a mobilisé 50 milliards de francs de mai à septembre et qu'il mobilisera un montant équivalent d'ici la fin de l'année, avant la phase de reconstruction dans laquelle, dit-il, l'État sera au rendez-vous. Au passage, il salue le plan S2R du gouvernement en soulignant que l'État a besoin de savoir quels sont les secteurs prioritaires, mais il relève que l'État n'a pas été associé à l'élaboration du plan quinquennal adopté par les élus du Congrès. Louis Lefranc reconnaît que l'aide de l'État est conditionnée à des réformes, même s'il souligne qu'évoquer le mot réforme est presque considéré comme une insulte. Et pourtant, dit-il, il va falloir les faire, notamment dans le domaine des dépenses.
Le problème, tel que moi je le ressens, il y a une absence de culture, de maîtrise de la dépense. Ça s'apprend. Il y a peut-être dans certains secteurs, certaines collectivités, une masse salariale qui est peut-être trop importante. Ça s'apprend. La maîtrise de la dépense. C'est pas une insulte, hein. C'est pas une insulte. Mais ça implique surtout une certaine volonté.
Concernant la reprise des discussions politiques, le commissaire indique qu'il faut attendre la constitution du gouvernement central pour être fixé. De la même manière, ce sera au Premier ministre de décider du report ou non des élections provinciales. Interrogé enfin sur le fait que l'UC et la CCAT ont demandé sa tête, Louis Lefranc répond qu'ils ont le droit de le faire, mais il ajoute que tout ce qui est excessif est insignifiant. Fin de citation.
Une interview du haut commissaire qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez également la retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Le PALICA réunissait hier une assemblée générale extraordinaire, la troisième en trois mois. Les travaux se sont déroulés à la tribu de Noélie à Koné. Deux points se trouvaient à l'ordre du jour, le changement de présidence au congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais surtout l'avenir du FLNKS. Les décisions prises lors du congrès de Koumak il y a 15 jours, avec notamment la nomination de Christian Théin à la tête du FLNKS, auquel ni le PALICA ni l'UPM n'avaient participé, continuent de faire vivement réagir le parti de Libération Kanak et créer des tensions. Le PALICA qui doit encore préciser son positionnement quant au FLNKS, une sortie du front a été évoquée lors de cette assemblée générale extraordinaire. Les installations des ligues de rugby et de football situées à côté de la Spank à Dambéa ont été incendiées dans la nuit aux alentours de 3h du matin. Les pompiers sont intervenus rapidement. Les bureaux, les locaux et les docks ont une nouvelle fois été touchés. Le site avait en effet déjà été brûlé une première fois au début des émeutes. Des travaux avaient depuis été réalisés par la municipalité et les bénévoles avaient mis la main à la poche pour du rachat de matériel, déplore Frédéric Hervouette, le président de la ligue de rugby de Dambéa, qui dénonce des attaques répétées contre le vivre ensemble incarné par les valeurs sportives.
Il y a eu des réparations qui ont été faites par la mairie pour pouvoir recevoir du public, aussi bien le foot que le rugby, puisque le club de foot avait relancé des tournois. Donc on partageait les locaux et donc on mettait à disposition du foot le terrain de rugby et on s'entend très bien avec le foot et vice versa quand on a des événements de rugby pour les jeunes, notamment les écoles de rugby. En fait, on partage nos terrains. Et ce matin, patatras, certains se sont amusés à détruire encore le vivre ensemble, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. On essaie de remonter bénévolement sur nos fonds propres, parce qu'on avait déjà été brûlé une fois. On essaie de racheter le matériel nous-mêmes en attendant les aides, les subventions. Et puis là, de nouveau, ça rebrûle, quoi. Pourquoi s'attaquer à des installations sportives, qui vient le foot que le rugby, quoi. On fera le bilan de ce qu'on a perdu, quoi. Voilà, c'est surtout le bénévolat, quoi, qui est attaqué. On est un peu le pont qui reste entre toutes ces communautés. Et là, ça veut vraiment détruire le pont.
Frédéric Hervouette, le président du club de rugby de Dambéa, a noté que cette nuit encore sur Nouméa, cette fois, deux véhicules ont brûlé, l'un sur la zone de Nimbo, l'autre à la vallée du Tir. Trois feux de détritus ont également été allumés dans l'enceinte de la déchetterie de Magenta. Les pompiers ont rapidement pu circonscrire le sinistre. Et puis hier, c'est un feu de brousse qui s'est déclaré en milieu de journée aux abords de l'aérodrome de Koumak, Mickaël Juneski.
Une quinzaine de pompiers du SIVM Nord et de la sécurité civile ont été déployés pour circonscrire l'incendie attisé par les vents forts. Le feu a finalement été maîtrisé en fin de soirée aux alentours de 20h45. Une reconnaissance par drone a été effectuée ce matin pour repérer d'éventuels points chauds. Une surface estimée entre 40 et 50 hectares est partie en fumée. La zone est restée sous la surveillance des soldats du feu ce matin encore. Et puis, à Kaalagomen, les soldats du feu ont dû protéger dans la matinée d'hier une habitation menacée par des flammes. L'incendie est parti sur les hauteurs. Il est en évolution libre.
Le slogan « Vous en avez pas marre de vivre comme ça » écrit en blanc sur un fond rouge vous a peut-être déjà interpellé dans les rues de Nouméa ou sur les réseaux sociaux. C'est l'artiste plasticien Thierry Mangin et ses amis qui ont décidé d'afficher leur ras-le-bol dans les rues de Nouméa ou du Mont d'Or. D'autres affiches avec de nouveaux slogans viennent d'être collées.
Un petit rappel, quand quelqu'un passe, il voit l'image et il voit le slogan des gens qu'on est tous bloqués au Mont d'Or encore, au bout de 4 mois, et leur rappeler que nous, on vit ça, quoi, encore. Quand on en est encore, des fois, à faire la queue pour le gaz, l'essence, les navettes, c'est infernal. Là, au bout de 4 mois, d'abord, on est passé par la phase où on n'a plus envie de rien créer parce qu'on est sous le choc. Et puis après, la lassitude, et puis après, la résilience, la colère, la résilience. Et là, la phase de résilience, je crois qu'elle a atteint son... C'est la fin, quoi. Là, c'est la lutte maintenant. La lutte pour qu'on nous ouvre la route et sécuriser, quoi.
Des propos recueillis par Sarah Mégery, Thierry Mangin, artiste plasticien et habitant du Mont d'Or Sud. Depuis hier, le GIE Carouya Bus a remis en circulation une partie de ses bus sur le réseau Taneo, une reprise condamnée par le SMTU. Le service se poursuit ce dimanche, Mickaël.
Le syndicat mixte des transports urbains a fait part hier de sa réaction alors que le GIE Carouya a décidé de remettre en circulation les bus de sa flotte dans Nouméa, d'où ce retour des autocars en service pour le plus grand étonnement des usagers. Selon le SMTU, cette reprise s'est faite sans concertation et alors que les conditions ne sont pas réunies. Pour le GIE, la remise en circulation des bus s'est passée sans contrainte et se poursuit donc aujourd'hui. Les lignes seront encore assurées demain. Écoutez Joseph Saliga, le président du GIE Carouya Bus.
On voit très bien qu'il y avait une grosse attente pour la reprise et les gens sont très satisfaits. Donc franchement, ça s'est super bien passé. Bon, on reprend ce qui est prévu contractuellement avec le SMTU. Donc toutes les lignes concernant le GIE Carouya seront reprises normalement avec des heures prévues dans le planning habituel. Je pense que la position du SMTU, je pense qu'aujourd'hui on a bien vu une présidente quand même pas contente par rapport à ce qui s'est passé. En attendant, c'était prévisible. La suspension se terminait vendredi. Surtout qu'on voit qu'aujourd'hui le réseau rail fonctionne. Il y aura des discussions pour le après. En attendant, donc nous on ne fait que exécuter ce qui est prévu dans le contrat. On va commencer à entamer les discussions, oui effectivement.
Le syndicat mixte des transports urbains, qui est le responsable de la gestion du service public des transports en commun dans l'agglomération, se donne le droit d'analyser dans quelle mesure cette reprise du service des bus rentre bien dans le cadre du contrat passé avec Carouya, étant donné la situation exceptionnelle que connaît la Calédonie et l'agglomération nouméenne depuis le 13 mai. Les discussions doivent se poursuivre pour déterminer dans quelle mesure une véritable reprise de l'activité du SMTU et des transports en commun pour toute l'agglomération doit être opérée lorsque les conditions le permettront, et tandis que les dégâts sur le réseau d'autocars et néobus ont été estimés à plus d'un milliard de francs.
Une nouvelle brocante de la Spank a fait des heureux ce matin. Des vêtements, de la vaisselle, des livres, des produits animaliers, tout ça à des prix défiant toute concurrence et pour venir en aide aux animaux de ce refuge de Coutiot, Sarah Mégerie.
La Spank organise désormais ses brocantes une fois par mois afin de réunir les fonds nécessaires pour venir en aide aux animaux qui sont encore plus en difficulté depuis les émeutes. La brocante propose des articles à très petit prix, ce qui ravit les chineurs amoureux des animaux.
Je suis venue parce que autant profiter d'un vide-grenier qui peut en rapporter pour les animaux et les aider après. Et puis on peut trouver pas mal de choses pas trop chères qui peuvent nous aider dans nos maisons.
Et ben on est là pour soutenir la cause de la Spank. Voilà, une façon de leur apporter notre soutien en achetant des choses recyclantes, puisque moi je suis dans le domaine de l'environnement et du recyclage. Donc c'est aussi en cohérence avec notre façon de penser et de consommer.
J'ai trouvé un petit gamelle pour la chatte qui est à la maison. Puis mon fils là qui aime bien, là, et il veut tout parce qu'il aime bien les animaux. Et ça m'intéresse aussi d'avoir un petit chien là, chez mon neveu. Là.
C'est la générosité des Calédoniens qui permet à ces brocantes d'exister. Les dons et fonds recueillis permettent aux animaux de vivre dans des conditions d'hygiène irréprochables, notamment pour éviter les épidémies. Chaque pièce collectée compte pour la Spank, explique Michel Gauthier, le président de l'association.
La dernière brocante en mois d'août nous a rapporté quand même 400 000 francs. C'est important pour l'association de recueillir ces fonds. Il y a aussi une part de mécénat. Comme aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont venues nous faire des dons en finance. Jusqu'à maintenant, on a pu préserver la structure, mais on a quand même des frais de fonctionnement importants. Les employés à payer, la propreté, à savoir que chaque année, on paye 600 000 francs d'eau, 500 000 francs d'électricité. Quand on soigne un animal pour les filaires, c'est 40 000 francs pour un chien de 30 ans. 40 kilos. Donc tout ça, c'est des frais importants, mais parce qu'il faut qu'on propose aux adoptants des animaux qui sont stérilisés, tatoués, vaccinés et qui sont prêts à repartir pour une famille d'accueil.
Pour toute information concernant les adoptions, vous pouvez contacter la Spank au 41 22 66 41 22 66.
Merci Sarah. Il est 12h19. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer l'actualité dans la région, en métropole et dans le monde. On se retrouve tout de suite après une page de pub.
Le fitness débarque au Quartier Latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Info Week-end, on retrouve Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité dans la région et chez nos voisins australiens, Canberra, le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé qu'il se rendrait la semaine prochaine aux États-Unis afin de participer au sommet annuel du Quad, au dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui regroupe les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon, et dont l'objectif non avoué est de contrer l'influence de la Chine dans l'Indo-Pacifique. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a indiqué que ce sommet aura lieu le 21 septembre à Wilmington, cette ville du Delaware où est habituellement domicilié le président américain Joe Biden. Outre ces deux hommes politiques, assisteront également à la réunion le Premier ministre japonais Fumio Kishida et son homologue indien Narendra Modi. Les discussions devraient surtout se concentrer sur le renforcement des liens diplomatiques, économiques et sécuritaires qui unissent déjà les quatre pays. L'Australie est profondément investie dans la prospérité et la stabilité future de la région Indo-Pacifique, a déclaré Anthony Albanese. L'Australie, les États-Unis, l'Inde et le Japon, a-t-il poursuivi, partage la vision d'une région où tous les pays peuvent coopérer, commercer et prospérer. Nous travaillerons ensemble pour façonner le type d'Indo-Pacifique dans lequel nous voulons vivre, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
L'actualité nationale, des mobilisations de soutien à Gisèle Pelicot ont eu lieu un peu partout en France samedi. Un appel à manifester qui intervient en plein milieu du procès de son mari, Dominique Pelicot, principal accusé avec 50 autres hommes d'avoir drogué, violé et fait violer Gisèle Pelicot durant une dizaine d'années. Le reportage de Noémie Loisel à Grenoble dans l'Isère où une centaine de personnes a défilé dans les rues.
Pancarte à la main, des dizaines d'étudiants, des salariés ou encore des retraités sont venus soutenir et remercier Gisèle Pelicot d'avoir rendu son procès public. Un acte courageux pour Lisa, 25 ans, et Louise, 23 ans.
J'ai envie de montrer aussi à Gisèle qu'on est beaucoup à être concernés. Quand on est une femme, on subit des agressions quotidiennes, dans la rue, au travail. Malheureusement, c'est des agressions qui sont banalisées.
J'ai envie que ça change, j'ai envie qu'on en prenne vraiment conscience. Ceux qui doivent avoir honte, c'est les agresseurs, c'est pas elle.
Un rassemblement pour dénoncer aussi la culture du viol, explique Agadjos, formatrice aux violences sexistes et sexuelles, au collectif Nous Toutes.
Ça montre aussi que dans la sphère conjugale et dans les foyers, c'est plus que présent. C'est des hommes de tout âge, de tout horizon, de toute profession.
Aux côtés de ces femmes, plusieurs hommes aussi, comme elle, 22 ans, qui tenait à accompagner ses amis.
La honte doit changer de camp. Je pense que c'est grand temps que les hommes comprennent ça. Ils ont été protégés trop longtemps et que maintenant, c'est plus possible. On se battra jusqu'à ce que justice soit faite.
Les manifestants espèrent aussi le maintien du procès. Celui-ci pourrait être reporté en raison de l'état de santé de Dominique Pelicot. Grenoble, Noémie Loisel, Europe 1.
L'actualité nationale marquée encore par cette dernière cérémonie en l'honneur des athlètes médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Une grande fête qui est venue conclure la parenthèse olympique dans la capitale. Le judoka guadeloupéen Teddy Riner a été à cette occasion élevé au rang de commandeur de l'Ordre National du Mérite par Emmanuel Macron. La politique à présent, avec la fin de la première journée de rentrée du Rassemblement National, terminée l'université d'été dans le sud de la France, place un week-end studieux à l'Assemblée nationale. Pendant deux jours, les 126 députés suivent des tables rondes sur le leadership ou le fonctionnement de l'État. Point d'orgue dimanche avec le Conseil national du parti qui va entériner une réorganisation profonde du mouvement, selon Marine Le Pen, qui appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le reportage de Maïalène Trémollet.
Pour cette première réunion des députés depuis les élections législatives du mois de juillet, c'est Marine Le Pen qui donne le ton. Dans son discours, la présidente du groupe RN à l'Assemblée salue des résultats excellents, mais pas suffisants pour imposer l'alternance. Elle réclame une nouvelle dissolution pour sortir de l'impasse politique.
Ça ne peut pas durer. Donc espérons que cette mandature soit la plus courte possible. La Constitution interdit de dissoudre avant un an, il reste 10 mois et moi je suis convaincue qu'il y aura des nouvelles élections législatives et encore une fois je les appelle de mes voeux.
Des nouvelles élections mais avec un nouveau mode de scrutin, la proportionnelle réclamée par le Rassemblement National, les Insoumis mais aussi le Modem. En clair, si le parti à la flamme veut afficher une attitude responsable et constructive, à savoir maintenir le gouvernement de Michel Barnier sous surveillance sans le censurer par principe, le groupe groupe parlementaire se tient d'ores et déjà prêt à repartir en campagne dans l'espoir d'une dissolution prochaine.
Maïlène Trémollet pour Europe 1. À l'extrême gauche de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, s'est exprimé à la fête de l'humanité. Il a attaqué Emmanuel Macron, je cite, un homme seul à opposer son veto au suffrage universel. Toujours à la fête de l'humanité, François Ruffin, ancien député LFI, aujourd'hui en opposition à Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui été sifflé par le public. Et puis en bref, un séisme de magnitude 4,3 a été ressenti ce matin pour nous sur le littoral de la Côte d'Azur. L'épicentre se trouvait à 52 km au sud de Fréjus, en pleine mer Méditerranée. Et puis l'actualité dans le monde, la Russie a annoncé avoir échangé avec l'Ukraine 103 prisonniers de chaque camp, parmi lesquels des soldats russes capturés lors de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. Ce matin pour nous, le chef du renseignement militaire ukrainien a estimé que la Russie allait tenter de mettre fin à la guerre avec Kiev avant 2016, pour éviter de voir ses positions s'affaiblir sur fond de sanctions économiques occidentales et de mobilisation en raison des pertes sur le front. 12h26, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive. On se retrouve tout de suite.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Excellent début d'après-midi, la suite de votre journal avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une de l'actualité sportive, Michael Juneski, du rugby avec la deuxième journée de Top 14.
Et les Bretons de Vannes qui sont passés tout proches de leur première victoire dans la première division du championnat de France. Aujourd'hui, ils se sont inclinés sur le score de 34 à 31 seulement sur le terrain du Stade français. Le promu décroche tout de même donc son premier point dans l'élite. C'est l'apprentissage du très haut niveau pour Johan Boulanger, l'entraîneur des trois quarts de Vannes.
C'est positif parce qu'on ramène un point du Stade français qui est une très bonne équipe. Le public breton l'a reconnu à la fin. On sent qu'il y a un partage avec le public. Un peu de frustration parce qu'on laisse trop de choses faciles à notre adversaire.
Les autres résultats pour le compte de cette quatrième journée du championnat de France. Une victoire de Toulon sur Castres, 30 à 28. Du Racing 92 sur Clermont, 33 à 20. De Pau sur Bayonne, 51 à 29. Montpellier à Perpignan a également décroché un large succès, 26 à 7. Tandis que Lyon s'est imposé sur l'Union Bordeaux-Bègles, 28 à 26. Notez que la dernière affiche demain opposera le Stade Toulousain au Stade Rochelet.
Sur les terrains de football, le PSG reste en tête de la Ligue 1.
Paris qui a dominé les Bretons de Brest, 3 buts à 1 pour rester leader du championnat de France. Le PSG s'est imposé avec notamment un doublé de Dembélé, une bonne préparation pour des Parisiens qui joueront, d'ailleurs tout comme le Stade Brestois, la Ligue des Champions dès la semaine prochaine. Pour Éric Roy, le coach de Brest, les Parisiens ont un nouveau style de jeu, ce qui en fait un adversaire redoutable cette saison.
J'ai l'impression que ça court beaucoup plus. C'est collectivement une équipe qui joue ensemble. C'est là où ils sont difficilement lisibles parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes avec de la qualité. On sait que c'est compliqué et ça l'a été. C'est certainement une équipe de toute façon qui va être dangereuse, même en Ligue des Champions pour beaucoup d'adversaires. Donc nous, on a essayé de faire notre mieux.
Les autres résultats du jour, Marseille a battu Nice 2-0, Monaco l'a emporté à Auxerre 3-0. Hier, Saint-Etienne avait battu Lille sur le score de 1-0. Paris est donc leader devant Marseille et Monaco qui sont à égalité sur le podium avec un meilleur goal average en faveur de l'OM. Nantes est au pied du podium, les Nantais d'Antoine Comboiré qui joueront ce soir contre Reims. La dernière affiche sur les 5 rencontres à venir opposera Lens à l'Olympique Lyonnais.
Un coup d'œil aux autres résultats sur les pelouses européennes.
L'Angleterre tout d'abord avec cette victoire de Manchester United à Southampton 3-0. Liverpool qui a battu Nottingham Forest 1-0. Manchester City s'est imposé sur Brentford 2-1. Il y aura un choc demain entre Tottenham et Arsenal. En Allemagne, le Borussia Dortmund a dominé Heidenheim 4-2. Le Bayern Munich est leader après avoir battu Holstein Kiel 6-1. En Italie, pas de victoire pour la Juventus de Turin contre Empoli 0-0. Le Milan AC s'est lui imposé sur Venise 4-0. Et enfin en Espagne, le Real Madrid s'impose sur la Real Sociedad 2-0, dont un but de Kylian Mbappé sur pénalty. L'Atlético de Madrid affrontera Valence demain, tandis que le Barça fera face à Gérone, le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions.
Un mot de boxe maintenant.
Avec un retour sur le ring attendu ce dimanche, le Mexicain Canelo Alvarez doit combattre à Las Vegas face au Portoricain Edgar Berlanga en main event d'une grande soirée de combat. À 34 ans, Saúl Canelo Alvarez part grandissime favori pour défendre ses ceintures mondiales WBC, WBA et WBO des poids super moyens. Un match à venir dans l'après-midi pour nous, en clôture donc d'un grand gala pour le Noblard.
Et on passe maintenant à la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La F1 avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Charles Leclerc, le pilote Ferrari, sur la lancée de sa dernière victoire au Grand Prix de Monza, a décroché la pole position, sa quatrième de suite sur le tracé urbain aussi exigeant que spectaculaire à Bakou. Il partira en tête sur la grille de départ devant Oscar Piastri sur McLaren et son coéquipier Carlos Sainz. Côté français, Esteban Ocon n'a pas passé le premier cut, signant le 20e et dernier chrono. Une dernière place qui reviendra finalement à Guangyu Zhou, pénalisé pour avoir changé sa batterie ainsi que son boîtier de contrôle électronique avant les qualifications. Et puis Pierre Gasly, l'autre français qui s'offrait sur son dernier tour le 4e temps de référence, est sorti finalement en Q2 avec le 13e chrono. On l'écoute.
Au final, on arrive à passer en Q2. Je suis vraiment très content. J'arrive à faire deux bons tours où je mets tout ensemble. Ce que je regarde, c'est l'évolution qu'on a eu pendant le week-end. On a commencé vraiment très très loin. On finit à ce moment-là, je crois, à une seconde de la pole sur un tracé. On sait que c'est pas simple pour nous et c'est pas fait pour la voiture. Donc non, on a fait du mieux possible. Après, c'est vrai que ça reste très très compliqué.
Le Grand Prix d'Azerbaïdjan sera à suivre à partir de 22h ce soir.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien maintenant, de la voile avec la régate offshore du CNC.
L'équipage de Young Guns a passé en premier la ligne d'arrivée sur cette 3e régate offshore du Challenge 2024 du CNC. Les 7 membres d'équipage du navire skippé par Patrick Baldi ont été les plus rapides pour un aller-retour de 145 000 nautiques jusque dans le Grand Sud en moins de 24 heures. On écoute Patrick Baldi.
Ça a été compliqué pour nous. On a beaucoup souffert sur le long bord de près, descendre du canal Woodin jusqu'au sud de la Corne. La nuit a été difficile parce qu'on était un peu sous-toilé. Il y avait une mer très hachée, très, très difficile à négocier. Et on a perdu pas mal de terrain à ce moment-là et on a vu les autres partir. On était un petit peu inquiet et puis on a réussi à bien se refaire sur le portant du retour. Là. Et on a fini dans des conditions incroyables avec Nouméa sans aucun vent, les fumées qui montaient droites. Et nous, on arrivait juste devant un grain avec 20-25 nœuds qui nous poussaient sur Nouméa. C'était magnifique, sur une eau miroir. C'était très étonnant. C'est une vraie épreuve parce que, mine de rien, ces petites offshore de 24 heures, c'est pas facile. C'est beaucoup de manœuvres, beaucoup de conditions différentes. Et puis, c'est très fatigant parce que, en fait, sur 24 heures, on se repose quasiment pas.
Et pour les participants à bord de Young Guns, ça reste une belle expérience dans cette régate de préparation à la New Caledonia Groupama Race qui a été reportée à l'année prochaine.
On a réussi à bien remonter sur les derniers bords et c'est une bonne fin. Moi, ça me fait plaisir parce que c'était la première que je faisais avec ce bateau-là et cet équipage. Donc ouais, moi, c'est une nouveauté. Donc c'est sûr que moi, ça me fait plaisir de partager ça avec eux et d'apprendre.
Vous avez quel âge ?
J'ai 17 ans. Okay.
La Groupama Race, c'est quelque chose que vous souhaiteriez faire plus tard?
Ouais, pourquoi pas, ouais.
On a été un peu mouillé sur l'arrivée, mais non, globalement, c'était cool. On s'est bien amusé et c'est bien passé. Enfin, il faut être un peu plus endurant que les régates classiques, mais c'est chouette. Ouais.
C'est quelque chose d'assez exceptionnel de naviguer sur ce bateau. Un très, très beau bateau, tout carbone. C'est de la coordination à faire, c'est comprendre comment marche la voile, voir là un nuage arriver, puis rester au large, par exemple, pour l'arrivée à Nouméa, alors qu'il n'y avait pas du tout d'air à terre.
On a réussi quand même à maintenir pas mal de courses, sauf la Groupama, évidemment, mais ouais, non, c'est super important. En tout cas, nous, c'est vital, et c'est une des seules choses qu'on peut encore faire sur Nouméa, donc c'est super important pour nous. Ouais.
L'équipage de Young Guns, toujours à la recherche d'un sponsor pour les régates, qui est donc arrivé le premier à Nouméa ce matin devant Pulpito MLS FCDD et Speed Marine MSC Hermès Protection. Le classement officiel et définitif sera dévoilé mercredi. 12 navires étaient engagés.
Et puis un coup d'œil à l'actualité du football.
La troisième et dernière journée du championnat féminin d'Océanie des moins de 16 ans, ça se passe au Fidji. Les Calédoniennes qui sont pour le moment troisième à égalité de points avec les îles Salomon, deuxième. Dès 14h cet après-midi, nos représentantes devront battre Tahiti tout en espérant une large victoire de la Nouvelle-Zélande face aux îles Salomon. Pour rappel, seules les deux premières équipes du groupe seront qualifiées pour les demi-finales de ce championnat d'Océanie qualificatif pour la Coupe du Monde de cette catégorie d'âge.
Merci Mickaël Juniski. Il est 12h36, c'est la fin de ce journal.